Ça fait deux fois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on continue ce matin l'histoire du juge Samson. Décidément, c'est Samson, hein. Terrible. Voilà, donc on a vu la dernière fois sa naissance assez particulière et son appel, sa mission. Samson est celui qui va commencer à délivrer Israël des Philistins. Et on a vu que voilà, l'ange qui apparaît à sa mère lui donne des règles, donc de ne pas boire de vin, enfin un certain nombre de règles. Et il est dit dans Juges 13 qu'on a lu la dernière fois que jusqu'à sa mort, Samson sera consacré à l'Éternel. Et là donc on va suivre ce livre et donc lire aujourd'hui une section un petit peu longue qui va du mariage de Samson jusqu'à ses premiers combats, ses premières luttes. Voilà, donc Juges chapitre 13, on lira à partir du verset 24. Juges chapitre 13, verset 24. La femme donna naissance donc à un fils et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action lorsqu'il était à Mahanédan entre Tsoréa et Eshtaol. Chapitre 14. Un jour, Samson se rendit à Timna. Il y remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit « J'ai remarqué une femme parmi les Philistines et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. » Ses parents lui répondirent « Est-ce qu'il n'y a pas assez de jeunes filles dans ta tribu ou dans les autres tribus de notre peuple pour que tu ailles chercher une épouse chez ces Philistins incirconcis ?» Mais Samson dit à son père « C'est elle que je juge bon de prendre. Va la demander pour moi. » Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, car ils cherchaient une occasion de conflit avec les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson se rendit donc avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la ville, tout à coup, un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui, et les mains nues, Samson déchira le lion en deux, comme on le fait d'un chevreau, il se garda de raconter la chose à ses parents. Ensuite, il alla faire sa déclaration à la femme qui lui plut beaucoup. Lorsqu'il revint, quelque temps après, pour l'épouser, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion et voici qu'il trouva dans la carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il en prit dans ses mains et tout en marchant, il en mangea. Lorsqu'il eut rejoint ses parents, il leur en offrit sans leur indiquer qu'il avait recueilli ce miel dans le cadavre du lion. Son père se rendit chez la femme pour convenir du mariage et Samson organisa un banquet de mariage comme c'était la coutume des jeunes gens. Lorsqu'on le vit, on choisit 30 compagnons pour être avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. » Si vous trouvez la solution et que vous me la donnez d'ici la fin des 7 jours de festin, je vous donnerai 30 tuniques et 30 habits de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me donner la solution, c'est vous qui me donnerez 30 chemises et 30 habits de rechange. Nous t'écoutons, lui répondirent-ils. Propose-nous ton énigme. Alors il leur dit, de celui qui mange, vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. Pendant 3 jours, les jeunes gens ne réussirent pas à trouver la solution de la devinette. Le 4e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Enjôle ton mari pour qu'il te donne la réponse de la devinette et viens nous la rapporter. Sinon, nous te brûlerons, toi et ta famille. Est-ce pour nous déposséder que vous nous avez invités ?» Alors elle se mit à pleurer tout contre son mari et lui dit, « Tu ne m'aimes pas, tu me détestes. Tu as proposé une devinette à mes compatriotes et tu ne m'en as pas donné la réponse, la solution. Vois-tu, lui répondit-il, je ne l'ai même pas révélée à mes parents. Comment te la donnerai-je à toi? Elle le poursuivit de ses pleurs jusqu'au bout des 7 jours de festin, si bien que le 7e jour, harcelé par ses instances, il lui donna la solution de la devinette. Elle s'empressa de le rapporter à ses compatriotes. Le septième jour, les jeunes gens de la ville dirent à Samson, avant le coucher du soleil, « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et de plus fort qu'un lion ?» Il leur répondit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé la réponse. » Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui. Il se rendit à Ascalon, y tua 30 hommes, s'empara de leurs vêtements et donna les habits de rechange à ceux qui lui avaient révélé le sens de la devinette. On maria sa femme à celui de ses compagnons qui lui avait servi de garçon d'honneur. Quelque temps après, lors de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme et lui apporta un jeune chevreau. Il déclara, « Je vais aller auprès de ma femme, dans sa chambre. » Mais son beau-père ne le laissa pas y aller. « J'étais persuadé, lui dit-il, que tu l'avais prise en haine. Alors je l'ai donnée à ton garçon d'honneur. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus charmante qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson répliqua, « Cette fois-ci, on ne pourra pas me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. » Là-dessus, il s'en alla et attrapa 300 chacals. Après quoi, il prit des torches, attacha les animaux deux par deux, par leur queue, en fixant une torche à chaque paire de queues. Puis il alluma les torches et lâcha les chacals dans les blés des Philistins, aussi bien que ceux sur pied, jusqu'aux vignes et aux oliviers. Les Philistins demandèrent, « Qui a fait cela ?» On leur répondit, « C'est Samson, le gendre d'un homme de Timna, parce que celui-ci lui a repris sa femme et l'a donnée à son garçon d'honneur. » Alors les Philistins allèrent brûler vif la femme et son père. Samson leur dit, « Puisque c'est ainsi que vous agissez, je n'aurai cesse jusqu'à ce que je me sois vengé sur vous. » Là-dessus, il est bâti à plate couture et leur infligea une grande défaite. Puis il partit vivre dans la caverne du rocher d'Étam. Amen. Voilà donc le début des actions de ce juge Samson. Le verset 25 qu'on a lu au chapitre 13 nous dit « L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. » Vous savez que l'Esprit de l'Éternel est souvent décrit par l'image du vent. Donc là, il faut voir Samson qui vivait jusque-là plus ou moins tranquillement, commence là à être comme agité par l'Esprit de l'Éternel qui le pousse à l'action. « Bouge-toi, Samson, l'heure de ta mission a sonné. » Bizarrement, je m'attendais à ce que tout de suite Samson commence à livrer la guerre aux Philistins. Et son premier acte, c'est de repérer une femme philistine et de la demander en mariage. Il est surprenant, ce Samson. C'est vraiment inattendu. Et on lit au début du chapitre 14 que ses parents désapprouve ce mariage. Est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans ta tribu ou dans les autres tribus de notre peuple pour que tu ailles chercher une épouse chez ces Philistins incirconcis ? Lui dirent ses parents. C'est vrai qu'en effet, ses parents avaient aussi en tête cette consécration, cet appel de Samson, certainement à s'opposer aux Philistins, à faire bouger les choses. Je rappelle qu'on était là dans une période d'occupation. Israël était sous la domination des Philistins et il y avait là une certaine paix, une certaine cohabitation. Ses parents, je pense nous aussi, on s'attendrait à ce qu'ils fassent bouger les choses dans le sens plutôt d'un conflit, d'une guerre. Mais là, son premier acte, c'est de se marier avec une Philistine. Les parents de Samson n'ont pas tort. Dieu lui-même, en Exode, déconseille aux Israélites d'épouser, donc de se marier avec les peuples qu'ils trouveront en Canaan. Ce n'est pas par racisme. J'ai lu dans certains blogs, il faut y voir là plutôt que Dieu prévient les Israélites contre le risque de se détourner de Dieu. Parce que se marier avec un peuple étranger qui avait d'autres croyances, d'autres divinités, c'était le risque d'adopter d'autres pratiques religieuses et de se détourner de Dieu. J'étais assez surpris de ce premier acte de Samson. Mais je me suis dit, est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, ici, en 2014, est-ce que, s'agissant du mariage, est-ce qu'on est aussi ouvert d'esprit qu'on le devrait? Je sais qu'il y a encore, même parmi les chrétiens, des mariages qui suscitent de l'opposition. Des mariages entre blancs et noirs, ou des mariages entre indiens et noirs, ou des mariages entre africains et antillais. C'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues. Encore aujourd'hui, le sujet du mariage est délicat, est sensible. La Bible nous apprend quand même, frères et sœurs, pour nous qui sommes chrétiens, que le plus important, c'est de partager avec l'homme ou la femme qu'on choisit ce qui nous est le plus précieux, notre foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus d'incirconcis, il n'y a plus de juifs ni de grecs. Il y a des chrétiens qui croient et qui se confient en Jésus-Christ. Mais là, on est quand même surpris que Samson pose un tel acte. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, si on avait cru en Samson et qu'on le voyait là comme premier acte, demander une Philistine en mariage? On aurait certainement pensé que là, oh là là, là, il est en train de dévier. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu nous précise au verset 4. C'est l'Éternel qui dirigeait l'action de Samson. Verset 4, chapitre 14. Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, car il cherchait une occasion de conflit avec les Philistins. C'est Dieu lui-même qui conduit Samson à faire cela. Et pourquoi ? Pour trouver, pour créer une occasion de conflit, pour faire bouger les choses, cette cohabitation, cette paix. Non, Dieu ne la veut pas. Et on voit tout au long du livre des Juges que ben, c'est quand Israël est attaqué par d'autres peuples, finalement, qu'il crie à l'Éternel. Et là, comme on l'a vu la dernière fois, il n'y a pas de cri à l'Éternel. Dieu veut faire bouger les choses afin que le peuple crie à l'Éternel. C'est bien l'Esprit de Dieu qui conduit Samson. Voilà, donc ses parents, forts de la conviction de Samson, ben, adhèrent à son projet et l'accompagnent donc demander la main de cette jeune fille. Et sur le chemin, à l'entrée de la ville, il est dit au verset 5, près des vignobles de la ville, tout à coup, un jeune lion marcha sur Samson en rugissant. Verset 6, alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et les mains nues, Samson déchira le lion en deux. Et quelque temps après, quand Samson revient voir la carcasse du lion, qu'est-ce qu'il trouve dans la carcasse du lion? Du miel, un essaim d'abeilles et du miel. C'est très énigmatique. C'est bizarre, là, la Bible ne nous explique pas, là, qu'est-ce que ça représente. On a envie de savoir, mais il y a probablement là une symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais Dieu ne nous l'explique pas. Voilà quelqu'un qui se prépare à sa lune de miel et qui, à l'arrivée de la ville, trouve un lion qui saute sur lui. Je me suis dit quand même que, waouh! Deux façons de voir les choses. Soit c'est vraiment le signe que Dieu n'est pas du tout dans ce projet, Et c'est comme ça, je pense que ses parents auraient pris cette nouvelle s'il avait apprise. Samson se garde bien de le dire à ses parents. Certainement parce qu'il sait qu'ils vont y trouver là encore un motif pour désapprouver son projet de mariage. Alors soit ce lion représente Dieu lui-même qui s'oppose à ton entrée là dans cette ville pour que tu te maries à cette jeune fille, soit c'est plutôt le contraire. Dieu qui vient à ton secours malgré les oppositions que tu peux rencontrer. Et je pense qu'on peut adopter cette deuxième interprétation puisqu'il nous est dit que le lion rugissant saute, fond sur Samson et l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de l'Éternel qui remplit Samson et qui l'aide à tuer. Et donc il s'oppose au lion. D'un côté l'Esprit de l'Éternel qui donne la force à Samson, de l'autre côté le lion. Il faut savoir que les Philistins croyaient en plusieurs divinités, Astarté, Dagon. Ces divinités, pour la plupart, avaient pour rôle de protéger les richesses et le territoire des Philistins. Et bien souvent, les temples de ces dieux étaient, disons, protégés par des statues de bêtes féroces, et notamment des lions. Il faut y voir là le signe aussi, je pense, l'allégorie d'une lutte, une image d'une lutte entre Dieu qui envoie son serviteur et les divinités philistines qui protègent le territoire des Philistins, leurs vignobles, sous la forme d'un lion. En tout cas, Samson, lui, il a tranché. Cette histoire ne va pas le décourager. Et même, il va utiliser cette aventure comme énigme et ça lui servira de premier moyen de défi face aux Philistins. Il va leur donner cette énigme. Verset 14, chapitre 14 toujours. « De celui qui mange, vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. » Voilà, on peut dire, la première confrontation entre Samson et les Philistins. Il propose un défi à ces jeunes Philistins qui participent à son mariage. Il leur propose de trouver la réponse à cette énigme. De celui qui mange vient ce que l'on mange, et ce qui est doux est sorti du fort. On voit lorsque cette énigme est dévoilée qu'en fait, il faut y voir le lion et le miel. Mais je me suis demandé quand même, pourquoi est-ce que ces Philistins acceptent ce pari-là? Parce que c'est pas évident de trouver. C'est quand même pas simple. Samson, là, utilise quelque chose qu'il a vécu, qu'il propose comme énigme à des gens. Mais moi, je sais pas. Tu nous proposes une énigme, waouh, d'où ça vient, d'où ça sort et tout, comment? Mais on se rend compte qu'ils acceptent volontiers. Ils acceptent volontiers de prendre le pari. Je rappelle qu'il y a en jeu 30 tuniques et 30 habits. S'ils acceptent volontiers les Philistins, le pari de Samson, c'est parce qu'ils sont sûrs de gagner. Ils sont sûrs de gagner. Ils sont sûrs de leur force. Et pourquoi ils sont sûrs de gagner? Parce qu'ils vont utiliser tous les moyens à leur disposition pour trouver la réponse de cette énigme-là. Ils disent, ah non, on ne va pas se laisser déposséder. Est-ce pour nous déposséder que vous nous avez conviés à votre mariage? Ils menacent la fiancée de Samson de la brûler et de brûler sa famille si elle ne réussit pas à faire avouer par Samson la réponse de l'énigme. Les Philistins nous sont présentés ici comme un peuple prêt à tout pour ne pas lâcher ce qu'ils ont. On voit là qu'ils ne font pas confiance aussi à Samson et à travers Samson aux Israélites. ils ne sont pas prêts à céder la moindre tunique. Alors, ils seront encore moins prêts à céder le moindre lopin de terre. Voilà comment débute le mariage de Samson avec cette Philistine. Et la femme de Samson va finir par obtenir auprès de son époux cette énigme, cette réponse. Et ensuite, on verra que Samson sera victime d'une double trahison. La première, donc, de sa femme, qui lui dit, au verset 16 du chapitre 14, « Elle se mit à pleurer tout contre son mari et lui dit, « Tu ne m'aimes pas, tu me détestes, tu as proposé une devinette à mes compatriotes et tu ne m'en as pas révélé la solution. » Elle veut que Samson lui donne la solution de l'énigme. Mais elle présente ça comme si c'était la demande d'une preuve d'amour. Elle ne dit pas à Samson qu'elle est menacée par ses compatriotes. Elle veut faire croire à Samson que, ah oui, mais prouve-moi que tu m'aimes, donne-moi la solution. Deuxième trahison que va connaître Samson, après la perte de son pari, il s'en va donc en colère chez lui, et en son absence, le père de sa femme marie sa femme à un autre. Il est dit, chapitre 15, verset 2, c'est le beau-père qui parle. « J'étais persuadé, lui dit-il, que tu l'avais prise en haine. Alors je l'ai donné à ton garçon d'honneur. » Voilà quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque. Parce que les fiançailles, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais les fiançailles, c'était un engagement. C'était un engagement fort. On ne pouvait pas rompre comme ça des fiançailles simplement parce que l'autre ne s'est pas présenté pendant 2-3 semaines. Non! C'était un vrai engagement. Et le beau-père, normalement, n'avait pas le droit de faire ça. En l'absence de Samson, même si celui-ci était parti en colère, il n'avait pas le droit de le faire. Double trahison, trahi par sa femme, trahi par son beau-père. Voilà Samson donc qui va déchaîner toute sa colère et toute sa vengeance. Et là, l'histoire là, qu'on a lue se termine par un engrenage de violence. Samson, pour donner les 30 tuniques et les 30 habits de rechange promis à ceux qui allaient trouver la solution à cette énigme, eh bien, va tuer 30 Philistins et leur prendre leurs vêtements. Ensuite, quand il revient et qu'il apprend que sa femme a été mariée à un autre, il met le feu aux récoltes de blé des Philistins. Ceux-ci, pour se venger, brûlent vif la femme de Samson et son beau-père. Et ensuite, Samson a cette phrase qu'on a lue au chapitre 15 et au verset 7. Samson leur dit, « Puisque c'est ainsi que vous agissez, je n'aurai de cesse jusqu'à ce que je me sois vengé sur vous. » Voilà donc cette histoire qui se termine dans un état de conflit. Je rappelle que jusque-là, Philistins et les Israélites vivaient en paix, en cohabitation. On s'arrête là dans ce livre des Juges, au chapitre 15 et au verset 8, sur un tableau de conflit, de guerre, de vengeance. Samson qui était parti pour se marier, eh bien, on voit que le mariage attendu, espéré, aboutit à la mort de sa femme, la mort de son beau-père. La fidélité qu'on aurait attendue entre, un couple ou entre des familles liées par le mariage ou entre des peuples alliés donne lieu à de la trahison. Arrivé là, je me dis que le décor est planté pour que Samson prenne la tête d'une révolte des Israélites. La paix est terminée. On est maintenant en état de conflit. Je suppose que dans la suite du texte, les Israélites vont venir à la suite de Samson, crier à l'Éternel et se battre contre les Philistins. Mais la suite du texte nous surprend, parce qu'il n'en est pas du tout ainsi. Samson va se retrouver trahi aussi par son peuple. Alors voilà, les premières aventures de Samson. Ça nous laisse un arrière-goût un peu amer. Nous, chrétiens, on s'est dit, waouh, que de violence, que de vengeance, que de sang. Heureusement que la Bible nous dit, tout ça est conduit par l'Esprit de l'Éternel. Et ça nous surprend. Comment Dieu peut agir ainsi? Ça nous surprend, mais ça ne devrait pas nous surprendre. Tous ces juges, ces prophètes que Dieu a suscités, n'ont eu cesse, par tous les moyens, de réveiller le peuple. Et on sait, et on le vit aussi nous, que c'est souvent dans les situations difficiles, de conflits, de violences, d'injustices, que nous sommes promptes nous aussi à crier à Dieu. Quand tout va bien, on est pépère. Ça roule. Il faut que les choses bougent dans notre vie, et souvent dans le mauvais sens, pour que nous pensions à crier à l'Éternel. Alors après avoir envoyé des hommes comme Samson, comme d'autres juges, des prophètes, il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son propre fils, Jésus-Christ. Et quand on analyse la vie de Jésus-Christ, on voit quelques similitudes avec celle de Samson. Jésus aussi a parlé sous forme d'énigme des fois, quand il a parlé du royaume de Dieu sous forme de parabole. Ses auditeurs étaient un peu surpris. Jésus aussi a été trahi par les siens. Jésus aussi a vécu de la violence. Il a subi la violence. Cloué à la croix, alors qu'il parlait de l'amour de Dieu, alors qu'il prêchait la repentance, le retour à Dieu, il a subi la violence des hommes, la violence gratuite. Mais Jésus aussi a exercé, par sa mort à la croix, une violence pour nous arracher des mains de l'ennemi. Et cette violence, elle est décrite en Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, on lira des versets 13 au verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 13. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. Certes, Jésus n'a pas combattu la chair et le sang. Il n'a pas tué des hommes. Bien au contraire, il en a même ressuscité. Mais il a livré à la croix un combat d'une extrême violence. Et c'est ce que nous rappelons pendant notre culte quand on prend la scène. Sa chair qui a été brisée, son sang qui a coulé, eh bien, c'est le symbole de ce qu'il a combattu. Il est dit dans ce texte, contre les puissances, les autorités, afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Et comme Samson, Jésus l'a fait tout seul. Seul contre tous. Lui, le Fils de Dieu, combattant pour le salut de l'humanité, mort à la croix, clouons nos péchés. Et désormais, depuis 2000 ans, des hommes, des femmes placent leur confiance en ce Jésus. On voit là que Samson n'a pas réussi à mobiliser son peuple. Jésus, lui, a réussi là où Samson a échoué. Des hommes et des femmes mettent leur confiance dans ce Christ, dans ce Messie, dans ce Jésus, afin d'avoir le pardon de leurs péchés et d'avoir la vie éternelle. Alors depuis ça, si tu es chrétien ou si tu es chrétienne, depuis que Christ s'est donné en sacrifice à la croix, ta vie a changé. Si tu mets ta foi et ta confiance en Jésus, tu auras certainement sur ton chemin des lions qui vont surgir, des épreuves, des luttes, des défaites même. Nous savons tous ce que c'est. Mais nous gardons le regard tourné vers celui qui est pour nous le miel dans notre vie, Jésus-Christ. Et nous l'attendons. Le livre de l'Apocalypse nous parle des noces de l'agneau. Nous n'allons pas le trahir comme il a été trahi, Samson, par sa femme, par son beau-père. Mais l'Église est invitée à attendre fidèlement le retour de son époux, Jésus-Christ. Alors voilà, j'aimerais conclure sur ce passage en nous invitant à la lecture de ces textes, à ne pas être trop choqué par la violence, par le sang, mais plutôt à réaliser que c'est ça le prix de notre salut et à réaliser quelle grâce Dieu nous fait à nous. Car il ne nous est plus demandé de faire couler du sang, mais il nous est demandé de placer notre confiance en Jésus-Christ par la foi. Amen.